franceinter.fr.
Le journal, c'est vous, Sébastien Paour. Bonsoir, Sébastien.
Bonsoir à tous. Le temps des excuses plus que des explications dans l'affaire Lactalis, le géant du lait, compatit sans vraiment éclairer la contamination de ses produits par la salmonelle. Près de 2000 vendus malgré le rappel de Bercy, qui reçoit en ce moment la grande distribution. Nous y sommes aussi. Emmanuel Macron face à Jean-Marie Gustave Le Clézio sur le tri des migrants, déni d'humanité insupportable pour l'écrivain. Faux bon sentiment d'intellectuel, lui répond le chef de l'État, vous l'entendrez. Au sommaire également ce soir, Gallimard qui renonce à éditer les pamphlets antisémites de Céline. 4 gardiens de prison agressés par un islamiste près de Lens. La Tunisie toujours dans la rue contre l'austérité. 200 chefs cuisiniers du monde entier contre la pêche électrique. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien, au téléphone sonne ce soir, Sébastien, si la Terre était plate, les Chinois n'auraient pas la tête en bas. Ne riez pas, parce que la Terre est plate, on peut vivre avec. Mais lorsqu'on pense que la CIA a fomenté le 11 septembre, que le terrorisme est manipulé par les services secrets, là, on n'a plus du tout envie de rire. Peut-être que vous connaissez des gens qui croient à ces théories dits complot, peut-être des gens qui sont proches et que vous ne savez comment les convaincre, comment lutter contre les fausses nouvelles. Faut-il légiférer, comme le suggère Emmanuel Macron? À vous de nous le dire, 01 45 24 7000.
C'est donc l'heure des comptes dans l'affaire Lactalis et c'est le gouvernement qui siffle la fin de la partie. Bruno Le Maire veut savoir comment les produits du groupe laitier se sont retrouvés en rayon malgré les rappels pour cause de salmonelle. L'État s'est substitué à une entreprise défaillante, résume le ministre de l'économie. Lactalis, seul responsable pour lui de la qualité et de la sécurité de ses produits. La grande distribution est convoquée à Bercy, nous y serons dans un instant. Et la direction de Lactalis prend les devants, enfin avant sa convocation demain. Bonsoir Manuel Ruffez.
Bonsoir.
Lactalis qui n'a pas l'habitude de parler publiquement et qui vient de le faire surtout pour s'excuser.
Nous ne nous excuserons jamais assez. C'est par ces mots que Michel Nallet, le porte-parole du groupe Lactalis, entame cette prise de parole inédite devant une foule de journalistes. Au nom de l'ensemble des collaborateurs, nous sommes sincèrement désolés, poursuit-il, dans cet exercice de contrition, avant de tenter de démontrer dans une chronologie des événements un peu hésitante à quel point le groupe a tout mis en œuvre de son propre chef pour stopper la contamination.
Nous avons appliqué un principe de précaution que nous avons qualifié de maximum, parce que nous ne pouvions pas, parce que nous ne souhaitons pas prendre un risque pour les parents et pour les enfants. C'est trop sensible. Et avant d'être des collaborateurs du groupe, nous sommes tous des parents, nous sommes tous des grands-parents. Et bien sûr que pour nous, c'était important de ne pas avoir de nouveaux cas de bébés malades.
Et il affirme, le rappel des lots est bien du fait de Lactalis. Toutes les analyses ont été faites dans les règles. Et il assène quelques chiffres pour prouver l'exemplarité du groupe. 6700 visites chez les clients, 58000 appels de parents sur le numéro vert traité. Bref, bien loin des accusations de défaillance lancées par Bercy ce matin.
Depuis le début, nous n'avons pas cessé de travailler en parfaite collaboration avec les services de l'État. Nous n'avons pas cessé d'accompagner les parents. Nous n'avons pas cessé d'accompagner nos clients. Nous avons mis tout en œuvre. Si l'enquête préliminaire qui a été ouverte venait à montrer que, effectivement, il y avait des responsabilités, notre groupe a agi depuis le début comme un groupe responsable. Il continuera à l'être.
Aujourd'hui, conclut le porte-parole de Lactalis, notre devoir, c'est de comprendre ce qui s'est passé avec cet événement d'une ampleur qu'il qualifie de jamais vu, jamais vécu.
Voilà donc la position de Lactalis. Merci Manuel Ruffez avec Laurent Grou. Allons voir maintenant ce que les distributeurs ont à dire pour leur défense. Bonsoir Solène Cressan.
Bonsoir.
Vous êtes à Bercy, Solène. Tous ou presque reconnaissent depuis lundi qu'ils ont vendu des lots qui auraient dû être retirés.
Un mea culpa général qui tend petit à petit vers une dénonciation de Lactalis et de sa responsabilité dans la crise. Le PDG d'Intermarché, Thierry Cotillard, l'un des premiers à être arrivé à Bercy pour la réunion de ce soir, est le plus virulent. Selon lui, Lactalis n'a pas assuré l'ampleur de la crise. Les enseignes accusent surtout la succession de rappels le 2 décembre, puis le 10, puis le 21. Cela a désorganisé toute la chaîne logistique des distributeurs. Alors sur ce point, il se pourrait qu'au cours de la réunion, qui a commencé il y a un quart d'heure, il soit aussi question de revoir les procédures de rappel. Les distributeurs doivent-ils tous tendre vers ce qu'a déjà annoncé Intermarché, un blocage du code-barre en caisse pour tout produit faisant l'objet d'un rappel? Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture, Stéphane Travert, ne feront donc peut-être pas que demander des comptes aux distributeurs, mais les encourageront à trouver des solutions. Ce soir, toutes les enseignes sont représentées, Casino, Cora, Leclerc, Système U, Auchan. Il y a les PDG d'Intermarché Intermarché et de Carrefour, Thierry Cotillard et Laurent Vallée. Ils devraient s'exprimer sur le contenu de la réunion dans la soirée.
Solène Cressan en direct du ministère de l'Économie. Merci. Santé publique France ne recense pour l'instant que 35 nourrissons atteints de salmonellose et qui ont consommé un lait ou un produit fabriqué dans l'usine Lactalis de Cran en Mayenne. La moitié d'entre eux ont été hospitalisés et ils sont tous sortis désormais.
Le gouvernement toujours ferme sur la question des migrants.
Il présente son projet de loi asile et immigration aux associations. Nous serons à Matignon dans un instant et le débat reste vif. Dernière prise de position, celle du prix Nobel de littérature, Jean-Marie Gustave Le Clézio, qui ne supporte pas le tri fait entre ceux qui fuient leur pays pour des raisons politiques et ceux qui fuient la misère. Emmanuel Macron lui répond depuis Rome, où il participe au sommet du Sud de l'Europe. Mathilde Imberti.
Alors qu'à Paris, des associations viennent de saisir le Conseil d'État sur la politique migratoire du gouvernement, alors que des intellectuels dans l'hebdomadaire L'Obs fustigent cette même politique, le prix Nobel Jean-Marie Le Clézio notamment, qui voit dans le tri des migrants un déni d'humanité insupportable. À Rome, Emmanuel Macron a défendu sa ligne. La France doit accélérer, dit-il, le traitement des demandes d'asile. Question de justice, selon lui.
Je pense que quand il y a des désaccords entre le peuple et les intellectuels, c'est parfois parce qu'il y a beaucoup de confusion chez les intellectuels. Sur ce sujet, vous savez, il faut se garder des faux bons sentiments. En France aujourd'hui, pour obtenir l'asile, en moyenne, c'est 18 mois. En région parisienne, ça peut atteindre 2 ans. C'est intolérable pour quelqu'un qui a droit à la protection de l'asile. Mais ça veut dire aussi que quand vous n'avez pas droit à l'asile, vous pouvez passer 18 mois ou 2 ans en épuisant tous les recours et on n'arrive plus à vous reconduire dans votre pays. Donc nous avons un droit qui est à la fois injuste pour ceux qui ont droit à l'asile et il ne permet pas d'être efficace pour les autres. Et donc c'est pourquoi ce qui a été décidé par le gouvernement, c'est de permettre à des personnels de préfecture d'aller dans les centres d'hébergement pour enclencher cette procédure.
Le président français a par ailleurs félicité l'Italie pour la baisse du nombre de migrants débarqués en 2017, un résultat obtenu au prix d'accords controversés passés avec la Libye. Rome, Mathilde Imberti, Benjamin Thuot, France Inter.
Une vingtaine d'associations ont donc saisi le Conseil d'État pour faire interdire la circulaire qui organise le recensement des migrants dans les centres d'hébergement. Elles étaient reçues cet après-midi à Matignon et elles sont déçues, comme Patrick Doutreligne de l'Union des associations sanitaires et sociales. Il est au micro de Julie Pietri.
Ce qui nous a semblé, c'est que le dialogue a été ouvert, mais que lâcher quelque chose aujourd'hui de la part du gouvernement, c'est impensable. Il nous faut plus de délais, il nous faut plus de capacité de renvoyer, il nous faut plus de moyens de contrôle, il nous faut plus de possibilités d'empêcher les recours successifs, etc. Donc on a toute la remontée des dysfonctionnements vus de l'administration, des problèmes aujourd'hui qui empêchent d'avoir le mot fluidité a souvent été utilisé par le gouvernement. L'autre vision, c'était assez incroyable. Il y avait 30 associations et les 30 disent la même chose, c'est-à-dire avec des mots différents, avec des priorités différentes, mais il n'y a eu aucune contradiction dans les 30 associations pour dire vous n'utilisez pas la bonne voie. Donc à un moment donné, il faut bien que le gouvernement se dise mais s'il y a une unanimité sur ce qu'on propose et un décalage, il faut de façon très intelligente et pragmatique voir si on peut rectifier le tir.
Il est 19h08 sur France Inter. Les pamphlets antisémites de Céline ne seront pas publiés, en tout cas pas tout de suite.
Gallimard suspend son projet de réunir les 3 textes dans une édition critique. Bagatelle pour un massacre, l'école des cadavres et les beaux draps proscrits depuis la guerre. Le patron de la maison Antoine Gallimard explique que la bataille était difficile à gagner. Bonsoir Jacqueline Pétrose.
Bonsoir Sébastien.
Les voix étaient nombreuses qui disaient leur émotion et leur opposition à ce projet.
Oui, le CRIF et la LICRA entre autres avaient immédiatement protesté ainsi que des lecteurs et des anonymes par centaines. Aujourd'hui donc, Antoine Gallimard, dans un communiqué, explique qu'il suspend ce projet jugeant que les conditions méthodologiques et mémorielles ne sont pas réunies pour envisager cette publication sereinement. Et l'éditeur d'ajouter qu'il comprend et partage l'émotion des lecteurs. Une décision qui satisfait Serge Klarsfeld, le président de l'Association des fils et filles de déportés juifs de France.
Je suis soulagé, pas seulement moi, mais tous mes amis, des orphelins, des déportés, des survivants de la Shoah, eh bien, nous sommes soulagés. C'est un combat qui est difficile et qui se renouvelle, hélas. Nous aurions préféré que Gallimard ne vienne pas verser de l'huile sur le feu d'un antisémitisme qui est toujours brûlant en France, voilà.
Parmi les pro-publications, Édouard Philippe, qui estime que ses écrits appartiennent à l'histoire française, mais pour le Premier ministre, ils doivent bien sûr être soigneusement accompagnés. Alors Antoine Gallimard rappelle dans son communiqué qu'aucune date n'avait été fixée et le report renvoie la publication sine die. Ces pamphlets ne sont pas interdits en fait à la publication, hein, mais n'ont jamais été réédités depuis la guerre. Toutefois, sans aucune précaution critique, eh bien ils sont consultables sur Internet et même en commande libre.
Et ils ont été publiés au Québec en 2012 par la maison Édition 8. Merci Jacqueline Pétrose. Les droits des œuvres de Louis-Ferdinand Céline seront libres en 2031. Cela fera 70 ans après la mort de l'écrivain.
Il est considéré comme le cerveau de l'attentat de la synagogue de Djerba.
Qui avait fait 21 morts en Tunisie en 2002. L'islamiste allemand a agressé 4 gardiens de la prison de Vendin-le-Vieil près de Lens cet après-midi. Le détenu qui purge une peine de 18 ans de réclusion les a poignardés. Voici le récit de Frédéric Charlet de l'UNSA pénitentiaire au micro de Bastien de Seninck de France Bleu Nord.
C'était une agression très très violente où il a crié plusieurs fois à la Wakbar et tout, donc moi je qualifie ça de tentative d'assassinat sans problème. C'est un détenu qui a été placé très récemment à l'isolement. Il avait fait savoir qu'il était prêt à tout pour éviter de partir aux États-Unis, parce qu'il faut savoir que les États-Unis voulaient le récupérer par rapport au fait qu'il est soupçonné d'avoir participé à la formation des pilotes d'avion dans l'attentat des Tours le 11 septembre 2001, même s'il n'y avait rien de fait, hein, c'était, l'extradition n'était pas programmée, hein. Donc c'est pour ça qu'il a été placé à l'isolement d'urgence, parce que moi, à mon avis, moi, le but, c'est de repartir sur une peine, enfin, sur une procédure en France. Ça évite qu'il parte aux États-Unis, quoi. Même si les États-Unis le veulent, tant qu'il est sur des affaires en France, il restera en France.
Et le parquet antiterroriste ouvre une enquête. Une demi-victoire pour les lanceurs d'alerte. La Cour de cassation du Luxembourg annule la condamnation d'Antoine Deltour, l'un des Français à l'origine du scandale LuxLeaks sur l'optimisation fiscale pratiquée par les multinationales via le Grand-Duché. Il avait écopé de 6 mois de prison avec sursis en appel en mars dernier. La condamnation de son compatriote Raphaël Allais, en revanche, n'est pas annulée. Il a été condamné, lui, à 1 000 euros d'amende. Julian Assange a obtenu la nationalité équatorienne le mois dernier. Le créateur australien de Wikileaks est réfugié depuis 5 ans à l'ambassade d'Équateur à Londres, qui refuse de lui accorder un statut diplomatique. Nordal Lelandais est-il un tueur en série? Le nom du ravisseur présumé de Maëlys, en août en Isère, apparaît aussi dans l'assassinat d'un militaire près de Chambéry et d'autres disparitions non élucidées interrogent les enquêteurs qui mettent en place une cellule de travail pour en avoir le cœur net de 10 enquêteurs. Parmi les dossiers potentiellement concernés, la disparition de Lucas Tronche, c'était en 2015 à Bagnols-sur-Cèze. Un possible rebondissement que les proches de l'adolescent accueillent avec prudence, Hervé Salafranque.
Pas de commentaire. La réponse est toujours la même, qu'il s'agisse de l'entourage de Lucas, des enquêteurs ou de la justice. Éric Morel, le procureur de la République de Nîmes, évoque seulement une porte ouverte pour procéder à des vérifications, quitte à la refermer ensuite. Même son de cloche ou presque, du côté d'Isabelle Mimran, l'avocate des parents de Lucas, qui refuse de parler de rebondissement.
Ce sont de nouveaux actes d'enquête, comme il y a eu quantité d'autres actes qui ont déjà été effectués. Donc pour moi, c'est pas un rebondissement. C'est une vérification qui me paraît logique. Ne serait-ce que pour fermer la porte.
Éric et Nathalie Tronche, les parents de Lucas, ne veulent pas s'exprimer et demandent également à leurs proches de rester silencieux. Cécile Lemierre de l'association Retrouvons Lucas se dit même ennuyée que ces informations aient été divulguées. Elle redoute qu'elles puissent perturber le déroulement de l'enquête. Après bientôt 3 années de recherche, de faux rebondissements, de rumeurs fantaisistes et d'espoirs déçus, tous les acteurs de ce dossier observent désormais la plus grande prudence.
Reportage signé Hervé Salafranque de France Bleu Gard-Lozère. Une nouvelle plainte contre Samsung pour violation des droits de l'homme. 2 ONG dénoncent le travail d'enfants de moins de 16 ans dans les usines chinoises du géant sud-coréen de l'électronique. Des horaires abusifs, des logements indignes ou encore les risques d'intoxication. Le numéro 1 du smartphone assure ce soir qu'il applique une tolérance zéro sur le travail des enfants. Une partie du butin du braquage d'hier au Ritz se retrouvait, mais 2 braqueurs sont toujours en fuite. Ils étaient 5 hier soir place Vendôme. Ils ont attaqué l'hôtel de luxe à la Hache et sont repartis avec plus de 4 millions d'euros de bijoux et de montres. Une partie a donc été retrouvée entre-temps avec 3 d'entre eux.
Les négociations sur la réforme de l'assurance chômage ont commencé.
Patronat et syndicats ont un mois pour s'entendre puisqu'elles vont se dérouler tous les jeudis jusqu'au 15 février. Le gouvernement veut étendre le régime aux travailleurs indépendants et à plus de démissionnaires, tout en le pérennisant alors qu'il est endetté de 30 milliards d'euros. Premier rendez-vous donc aujourd'hui au siège du MEDEF, Laurent Kramer. L'occasion pour les syndicats de rappeler qu'ils ne veulent pas d'une assurance chômage au rabais.
Pas question de brader l'assurance chômage et de créer un système à deux vitesses. Salariés du régime général d'un côté, démissionnaires et indépendants de l'autre, explique Michel Boga à Force Ouvrière.
Ah, il est hors de question que ce soit une assurance chômage au rabais. Ce que souhaite le gouvernement, c'est soit plus de démissionnaires indemnisés, mais avec moins de droits. Moi, je pense qu'il y a des solutions pour qu'on indemnise les démissionnaires avec les mêmes droits.
En l'absence d'une nouvelle cotisation, l'équation économique pour faire entrer plus de monde dans l'assurance chômage devient très compliquée, estime de son côté Jean-François Foucard à la CFE-CGC.
C'est vraiment ça le risque, c'est de tirer tout le système vers le bas. On va être vigilant à faire que les nouveaux droits qu'on devrait mettre ne détruisent pas tout le système.
Même inquiétude à la CFDT de voir une assurance chômage élargie, mais au final avec des droits dégradés pour tous, souligne Véronique Descac à la CFDT.
On craint qu'au bout d'un moment, on nous dise « Ah bah, vous vous rendez compte ce que ça coûte l'assurance chômage, donc ce qu'on a fait pour les démissionnaires, c'est-à-dire des petits droits, eh ben, on pourrait le faire pour tout le monde, on pourrait le faire pour les autres. On va commencer par le faire pour les ruptures conventionnelles, et puis pour les ruptures conventionnelles collectives, et puis après pour tous les demandeurs d'emploi. » Donc c'est vraiment un risque qu'on ne prend pas à la légère à la CFDT.
Le patronat ne voulant pas créer de nouvelles cotisations, les syndicats de salariés renvoient au gouvernement la responsabilité de financer par l'impôt ou la solidarité nationale la prise en charge des indemnités chômage pour les travailleurs indépendants.
Et pourquoi pas un second référendum sur le Brexit? C'est l'eurodéputé britannique très pro-Brexit, Nigel Farage, qui lance l'idée. Une seconde consultation pour faire taire définitivement, selon lui, les opposants au retrait. L'armée déployée dans plusieurs villes de Tunisie après une troisième nuit d'affrontements entre manifestants contre l'austérité et policiers. 300 personnes ont été arrêtées ces dernières 24 heures. Mais Maureen Mercier, la colère n'a rien à voir avec le printemps arabe de 2011.
Les militants de la campagne « Qu'est-ce qu'on attend ?» à l'origine des mobilisations assurent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Soit le gouvernement renonce à son budget d'austérité, soit les mobilisations se poursuivront jusqu'à ce que le gouvernement soit poussé à la démission. Les Tunisiens sont pris à la gorge. Impossible pour une immense majorité d'entre eux de faire face à de nouvelles hausses de prix et d'impôts telles que prévues dans la nouvelle loi. Depuis la révolution de 2011, la situation économique ne cesse de se dégrader. Le chômage, surtout chez les jeunes diplômés, n'a pas diminué. L'an dernier, l'inflation dépassait les 6%. Les Tunisiens ont le sentiment qu'on se moque d'eux, que les écarts se creusent, que les politiques agissent au nom des plus riches. Cette classe politique, très souvent comparée à une mafia, c'est le sentiment quasi général. Les mobilisations se poursuivent depuis plusieurs jours, certes, mais la majorité des Tunisiens renoncent pour l'heure à descendre dans la rue. Les Tunisiens veulent simplement travailler et vivre dignement et n'espèrent plus rien d'une nouvelle révolution. Demain, vendredi, le collectif à l'origine des mobilisations appelle à manifester massivement. Pour le gouvernement, ce sera un baromètre à observer de très près. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
Et l'opposition appelle, elle, à une grande manifestation dimanche à Tunis pour le 7e anniversaire de la chute de Ben Ali. Pas au point, la Goal Line Technology, la ligue de foot professionnelle, suspend dès ce week-end l'utilisation de cette technologie sur la ligne de but à titre conservatoire. On termine avec cet appel des plus grands chefs de la planète contre la pêche électrique. Cette méthode qui consiste à envoyer des décharges électriques au fond de la mer pour récupérer les poissons qui s'y trouvent dans les chaluts. Nous refusons de travailler ces produits, des produits issus d'une pêche qui condamne notre avenir et celui de l'océan, écrivent plus de 200 cuisiniers, dont Anne-Sophie Pic, Hélène Darroze ou encore Olivier Rollinger. Christopher Coutenceau, deux étoiles à La Rochelle, a rédigé le texte.
C'est un désastre écologique. Ça veut dire une fois que les barres électriques ont électrifié le fond, c'est plusieurs années avant qu'il y ait des algues qui repoussent. C'est une pêche non sélective. Tous les crustacés, coquillages, poissons vont être électrocutés et puis vont bien sûr mourir. La qualité du poisson pêché, ça va être des poissons qui vont avoir des hématomes et de qualité pitoyable. Et surtout, c'est pire que la pêche à la dynamite, pour donner un exemple. Le poisson est tout abîmé, hein, non. Après, je sais pas à quoi vont servir ce style de poisson et de qualité, hein. Je pense plus pour l'industrie ou l'agroalimentaire, hein, des choses comme ça. Et après, on le retrouve à 8 euros sur certaines grandes enseignes d'agroalimentaire. Au Parlement européen de Bruxelles hier, il y avait des pêcheurs artisans, donc style des ligneurs bretons, il y avait des mareyeurs européens. Ben eux sont catastrophés parce que ça va, comme je vous dis, ça va tuer leur métier.
Le chef Christopher Coutenceau avec Philippe Lefebvre, Yannick Aleno, Gérald Paceda, César Troisgros ou encore l'Espagnol Quique da Costa à Denia s'engagent aussi contre la pêche électrique. Un vote est prévu mardi prochain au Parlement européen.
Sébastien Paour pour l'info. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Le téléphone sonne à suivre sur France Inter. On verra si la Terre est plate, si le sida est écrit en laboratoire ou le 11 septembre un complot de la CIA. Comment redonner une place à la vérité dans le torrent du complotisme et si vraiment contre les fake news, les fausses informations, la solution est bien de légiférer. Et puis, à qui la faute aussi, nous, les journalistes, que faire quand on est professeur, quand on est éducateur? À tout de suite, la météo d'abord.